sur l'expérience de mensonge et d'inutilité qui se trouve au cœur des jobs à la con et l'idée qu'elle devrait être transmise à la jeunesse. L'histoire d'Eric contient en condensé tous les éléments pénibles et générateurs de souffrance des jobs à la con. L'impression de totale futilité en est un, bien sûr. Et puis, il y a le mensonge. J'ai déjà évoqué l'indignation des télévendeurs que l'on oblige à piéger les gens ou à faire pression sur eux pour qu'ils agissent contre leur intérêt. C'est un sentiment compliqué que l'on ne sait même pas vraiment nommer. Quand on entend le mot escroquerie, on imagine des bandits, des rois de l'arnaque, des personnages qui nous apparaissent presque comme des figures romantiques, rebelles vivant d'expédients et finalement dignes d'admiration parce qu'ils ont acquis une certaine forme de savoir-faire. Un escroc peut prendre plaisir à ce qu'il fait. C'est pourquoi il constitue un héros acceptable pour les films hollywoodiens. Être forcé de rouler quelqu'un, c'est complètement différent. Vous savez que vous et votre victime êtes dans le même bateau, en butte aux pressions et aux manipulations d'un employeur. Sauf que, pour vous, il s'y ajoute la honte de trahir la confiance d'une personne dont vous devriez être l'allié. Certes, dans un job à la con, si le travailleur arnaque quelqu'un, c'est bien son employeur, qui plus est, avec son consentement. Mais pour beaucoup, c'est précisément l'élément le plus perturbant. Vous n'avez même pas la satisfaction de mettre en œuvre une arnaque de votre propre invention. Vous ne vivez même pas votre propre mensonge. D'ailleurs, vous ne vivez pas davantage le mensonge de quelqu'un d'autre. Votre situation rappelle un peu ce qui se passe quand un chef de service se balade dans les bureaux avec la braguette ouverte. Tout le monde s'en rend compte, mais il n'y en a pas un qui va prendre sur lui de l'avertir. Voilà ce qui vous fait vous sentir plus inutile que tout. Peut-être que l'anti-Éric aurait réussi à retourner cette futilité à son avantage et à devenir partie prenante dans la farce. Si c'était un vrai fonceur, il aurait éventuellement utilisé ses compétences administratives pour prendre le contrôle du service. Mais ce n'est pas facile à faire, même pour les rejetons des riches et des puissants. Le témoignage suivant nous donne une petite idée de la confusion morale que ces derniers peuvent connaître. Rufus. J'ai eu le boulot parce que mon père était vice-président de la boîte. J'étais chargé de la gestion des réclamations. C'était une entreprise de matériel biomédical, sur le papier, donc tout produit retourné présentait un danger biologique potentiel. Du coup, je pouvais passer mon temps seul dans une pièce, sans aucune surveillance et en gros totalement désœuvré. Quand je me remémore mon expérience dans ce job, je me vois surtout jouer aux démineurs ou écouter des podcasts. Ok, il m'est arrivé d'étudier des feuilles de calcul, d'intégrer des modifications dans des documents Word, ce genre de trucs, mais je vous assure que je n'ai rien apporté à cette boîte. J'avais mes écouteurs en permanence, je remarquais à peine les personnes qui m'entouraient et je me souciais comme d'une guigne des tâches dont j'étais chargé. J'ai détesté chaque minute passée à ce poste. Je prenais des pauses déjeuner à rallonge, je disparaissais pendant des heures aux toilettes, en fait je me baladais, je rentrais chez moi très tôt. Personne ne mouffetait, et tout ce temps-là m'était payé. Quand j'y repense, c'était un peu un job de rêve. Avec le recul, Rufus se rend compte qu'il était littéralement verni, et il paraît déconcerté de se rappeler à quel point il haïssait ce boulot à l'époque. En fait, ce n'est guère étonnant. Ses collègues avaient certainement une piètre image de lui. C'était le fils du patron, payé pour tirer au flanc, trop imbu de sa personne pour leur adresser la parole, et on leur avait clairement fait savoir en haut lieu qu'il était intouchable. Il ne pouvait manquer de s'en être aperçu, et on se doute que cela ne devait pas susciter chez lui des sentiments très agréables. Cette histoire pose une autre question. Si le père de Rufus n'attendait pas de son fils un réel effort, pourquoi avait-il insisté pour qu'il prenne le job ? Après tout, il aurait aussi bien pu lui filer de l'argent de poche, ou alors lui confier des tâches vraiment nécessaires, le former en conséquence, et se donner un minimum de mal pour s'assurer qu'elles étaient effectivement accomplies. Au lieu de cela, il avait l'air de se moquer que Rufus acquiert ou non une véritable expérience professionnelle. Le plus important, c'était de pouvoir dire qu'il avait un job. C'est troublant. D'autant plus troublant que cette attitude paraît extrêmement répandue. Cela n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où la plupart des étudiants d'université disposaient d'un petit pécule, soit parce que leur famille avait suffisamment de moyens, soit parce qu'ils remplissaient les conditions pour obtenir une bourse ou une aide. Et l'on voyait d'un bon œil qu'il y ait dans la vie de ces jeunes gens quelques années au cours desquelles l'argent ne serait pas la motivation première, les laissant libres de poursuivre d'autres valeurs, la philosophie, la poésie, le sport, les expérimentations sexuelles, les états modifiés de conscience, la politique, l'histoire de l'art occidental. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'ils bossent. Que ce soit quelque chose d'utile ou non, n'a aucune espèce d'importance. En fait, on se contrefiche qu'ils fassent quoi que ce soit de concret. On leur demande juste de se pointer et de faire semblant, comme on le demandait à Rufus. C'est là une récrimination récurrente dans les témoignages d'étudiants que j'ai reçus. Voici ce qu'écrit Patrick à propos de son job intérimaire d'assistant vendeur dans la supérette du bureau des étudiants. Patrick. Je n'avais pas vraiment besoin de ce boulot. Financièrement, je m'en sortais très bien sans. Mais ma famille me mettait la pression. Alors, j'ai fini par postuler, poussé par un sentiment d'obligation tordue, l'idée qu'il me fallait acquérir une expérience dans le monde du travail pour me préparer à ce qui m'attendait après la fac. Au bout du compte, ce job n'a fait que me voler le temps et l'énergie que j'aurais pu consacrer à d'autres activités, militer, lire pour mon plaisir, et je pense que c'est ce qui m'a rendu encore plus amer. Il s'agissait d'un job assez classique qui consistait à tenir la caisse. Évidemment, une machine aurait aussi bien fait l'affaire. Mais il y avait une condition, clairement stipulée dans mon évaluation de résultats à la fin de ma période d'essai. Je devais me montrer plus positif et plus joyeux en servant les clients. Autrement dit, non seulement il me demandait de faire le boulot d'une machine, et avec autant d'efficacité, mais il voulait en plus que j'aie l'air de m'en réjouir. C'était à peu près supportable quand mon service tombait à l'heure du déjeuner. L'affluence et l'animation faisaient passer le temps relativement vite. En revanche, travailler le dimanche après-midi quand il n'y avait pas un chat au bureau des étudiants, c'était carrément l'horreur. Il y avait cette règle absurde comme quoi, même si le magasin était désert, on ne pouvait pas rester assis à ne rien faire. Par exemple, feuilleter le journal derrière la caisse. Non. Il fallait que le responsable nous invente des tâches complètement stupides, comme courir d'une allée à l'autre pour vérifier les dates de péremption, on savait pertinemment que les dates étaient OK à cause de la rotation des stocks, ou réorganiser les produits sur les rayons alors qu'ils étaient déjà rangés dans un ordre irréprochable. Le pire du pire, dans ce boulot, c'était le temps qu'il te laissait pour ressasser ton malheur vu qu'il n'exigeait aucun effort intellectuel. Je ruminais pendant des heures, pestait contre ce job à la con à la portée de n'importe quel robot, trépignait d'impatience à l'idée de voir un jour triompher le communisme intégral et me torturer les méninges pour imaginer des alternatives à ce système qui condamne des millions d'êtres humains à ce genre de boulot à vie. Voilà ce qui arrive quand vous envoyez un jeune à l'université pour lui ouvrir tout un horizon de possibles sociaux et politiques, puis que vous lui ordonnez d'arrêter de réfléchir et à la place, de s'employer à réorganiser des rayons déjà impeccablement rangés. Désormais, les parents considèrent qu'il est important que les jeunes fassent cette expérience. Mais qu'est-ce que Patrick était censé retirer de l'exercice au juste? Voici un autre exemple. Brendan. J'étudie dans une petite université du Massachusetts pour devenir prof d'histoire en lycée. Récemment, j'ai commencé à travailler au réfectoire. Le premier jour, un collègue m'a expliqué « La moitié du boulot, c'est de faire en sorte que les trucs paraissent propres, l'autre moitié, c'est d'avoir l'air occupé. » Les deux premiers mois, on m'a affecté à la surveillance de l'arrière-salle. Ça consiste à nettoyer les plateaux du buffet, à le réapprovisionner en dessert et à essuyer les tables une fois qu'elles sont libérées. La salle n'est pas très grande, donc généralement tout cela me prend 10 minutes par heure. ce qui me laisse pas mal de temps pour étudier. Sauf si, par malheur, le chef le plus borné travaille ce jour-là. Je dois alors le garder dans mon champ de vision en permanence pour m'assurer qu'il me voit toujours affairé. Je ne comprends pas pourquoi, dans la description du poste, il ne se contente pas d'admettre qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Si je ne consacrais pas autant de temps et d'énergie à avoir l'air débordé, tout serait bouclé plus rapidement et plus efficacement. Mes révisions et le débarrassage des tables. Il va de soi que l'efficacité n'a rien à voir là-dedans. Si le but était d'inculquer des habitudes de travail efficaces aux étudiants, la meilleure solution serait tout simplement de les laisser à leurs études. Car le travail scolaire est un travail au vrai sens du terme, à part qu'il n'est pas rémunéré, sauf si vous êtes titulaire d'une bourse ou d'une allocation. En fait, Patrick et Brendan poursuivaient des projets bien plus réels, en bûchant pour leurs cours ou dans n'importe quelle autre activité à laquelle ils auraient pu consacrer du temps s'ils n'avaient pas été forcés d'accepter ces jobs, que dans ces emplois qui n'étaient que des coquilles vides. Le travail scolaire a un vrai contenu. On doit assister aux cours, lire des bouquins, rendre des exercices ou des devoirs, et on est jugé sur ses résultats. Or, on dirait que c'est précisément pour cette raison que parents, enseignants, gouvernements et administrateurs jugent qu'il n'est pas apte à apprendre le monde réel aux étudiants. Il serait trop tourné vers les résultats. Libre à vous d'étudier comme il vous plaît, du moment que vous êtes admis à l'examen. Certes, pour réussir, un étudiant doit apprendre l'autodiscipline. Mais ce n'est pas la même chose que d'apprendre à exécuter des ordres. L'autodiscipline s'acquiert aussi à travers la plupart des projets et occupations qui remplissent la vie d'un étudiant, qu'il s'agisse de répéter une pièce de théâtre, de jouer dans un groupe de rock, de militer dans une organisation politique, de confectionner des cookies ou de faire pousser de la marijuana pour les vendre sur le campus. À l'évidence, tout cela vous forme un individu à vivre dans une société de travailleurs indépendants ou dans une société dominée par ses professions largement autonomes, médecins, avocats, architectes, etc., auxquels les études à la fac étaient censées conduire autrefois. On pourrait aller jusqu'à dire que cela forme au fonctionnement des collectifs démocratiques que Patrick rêvait de voir émerger avec l'avènement du communisme intégral. En revanche, c'est tout sauf une préparation au monde du travail bullshitisé d'aujourd'hui. Brendan. Ces jobs étudiants où l'on exécute des tâches à la con, comme scanner des pièces d'identité, surveiller des salles vides ou nettoyer des tables déjà propres, ils conviennent finalement à tout le monde, puisque nous, ils nous permettent de gagner de l'argent pendant nos études. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas automatiser ou éliminer ces tâches et donner directement l'argent aux étudiants? Je ne prétends pas comprendre parfaitement comment tout cela fonctionne, mais ce que je sais, c'est qu'une bonne partie de ces jobs sont financés par l'État et liés à nos prêts étudiants. Cela s'inscrit dans un vaste système fédéral qui vise à coller une dette massive sur le dos des jeunes, ce qui les condamne forcément à trimer pour les dizaines d'années à venir afin de la rembourser, couplé à un programme d'enseignement à la con qui nous formate pour nos futurs jobs à la con. Brendan met là le doigt sur un point très important dont nous reparlerons plus loin. Ici, je voudrais me concentrer sur ce que les étudiants apprennent réellement dans ces jobs factices imposés, des leçons qu'ils ne tireraient pas d'activités ou de passe-temps estudiantins plus traditionnels, comme réviser ses examens ou organiser des fêtes. Les deux témoignages que j'ai cités, et je pourrais en citer bien d'autres, nous permettent déjà d'identifier 5 enseignements principaux. Dans un job étudiant à la con, on apprend 1. Comment travailler sous la supervision directe de quelqu'un d'autre. 2. Comment faire semblant de travailler même quand il n'y a rien à faire. 3. Qu'on n'est pas rémunéré pour faire ce qu'on aime vraiment faire, même si c'est quelque chose d'utile ou d'important. 4. Qu'on est rémunéré en revanche pour faire des choses qui ne sont ni utiles ni importantes et qu'on n'aime pas faire. 5. Qu'il faut faire semblant d'y prendre plaisir, en tout cas dans les postes en contact avec le public. C'est en ce sens que Brendan décrit les boulots étudiants de pure forme comme un moyen de formater les jeunes dans la perspective de leur futur job à la con. Lui-même étudie pour devenir professeur d'histoire en lycée. C'est un métier dont l'importance ne fait aucun doute, mais où, comme on l'a vu, le nombre total d'heures passées en classe ou à préparer les cours décline au profit des heures consacrées aux tâches administratives. Aussi, pour Brendan, la logique à l'œuvre est limpide. Alors que la bullshitisation envahit les métiers qui requièrent un diplôme universitaire, ce n'est pas un hasard si la pression s'accentue sur les étudiants pour qu'ils délaissent les activités autogérées et tournées vers un but et privilégient les tâches qui les prépareront aux aspects les plus abrutissants de leur future carrière. C'est ainsi qu'on les initie au monde réel.